Salut à tous, quelques news du bord, c'est Benj.
Hello,
bonjour à tous, en ce lundi ensoleillé, nous venons d'empanner avec l'association Water Family sur la préservation de l'eau. Et maintenant, rendez-vous au départ.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix Rousse. Après une Transat Jacques Vabre riche en défis, Benjamin et Corentin ont passé la ligne d'arrivée en 10e position. Notre duo, qui s'était donné comme objectif de faire un top 10, a réussi son pari. Aujourd'hui, je vous propose de revivre cette Transat Jacques Vabre dans les yeux de Benjamin et Corentin, de les suivre tout au long de cette course mythique qui les a menés jusqu'en Martinique. Arrivés au Havre le 20 octobre, nos deux skippers ont enchaîné sur une semaine de village de course, au cours de laquelle ils ont pu participer à des événements, rencontrer les équipes de nos sponsors, mais également s'entraîner, avant le départ qui était prévu pour le 29 octobre. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Le jour du départ, gros rebondissement. L'équipe reçoit un message de la direction de course. À cause de la tempête Ciaran, le départ est annulé. Le hic, aucune autre date de départ n'est annoncée. L'équipe décide donc de rentrer au Sable d'Olonne en attendant plus de nouvelles. Après une semaine de stand-by, Binge et Coco ont les fourmis dans les jambes. Finalement, le départ est annoncé. Il aura lieu le 7 novembre. Mais le temps n'a pas fini de leur jouer des tours. Un gros front arrive sur les côtes bretonnes le jour du départ. Le départ aura donc lieu à 9h du matin, afin que les Imoca puissent traverser la Manche avant son arrivée. Le matin du départ, alors qu'il fait encore nuit, nos deux skippers arrivent quai des Antilles. Départ ponton à 5h du matin. Tout le monde n'est pas trop réveillé, mais une chose est sûre, Binge et Coco trépignent d'impatience à l'idée de partir. 3, 2, 1, top départ. Le canon du départ résonne dans la baie du Havre. Les Imoca se lancent alors dans une course effrénée vers les Antilles. Dans une vingtaine de nœuds devant, Binge et Coco s'élancent et prennent le départ au milieu du peloton de tête.
Hello à tous de Guyon Environnement. Ça y est, Coco, on est parti. Direction à la sortie de la Manche pour l'instant. Bon départ, hein, c'était chaud, tonique, mais... Écoute, bon départ au près. Ça a tiré des barres long de la côte bretonne maintenant et après passage de front pour aller dans le sud.
Les conditions du départ sont toniques. Rapidement, les Imoca se dirigent vers la pointe du Cotentin avant d'obliquer vers l'ouest.
On arrive au Cap de l'Agle.
Il y a quatre petits bateaux, quatre petits copains juste au-dessus.
Et puis mes amis figaristes qui sont juste là à côté.
La première nuit est sportive pour notre équipage, qui entre de plein fouet dans le front et déplore ses premières casses. Rien de grave, mais de nombreuses petites casses viennent rallonger leur job list.
Ouais, c'était assez intense, on a eu beaucoup de vent, un passage de front, on n'a pas de casses importantes, mais on a eu pas mal de bricoles qui se sont cassées. Donc c'est vrai qu'on a perdu pas mal de temps et ça nous a pris aussi pas mal d'énergie. Du coup, c'est vrai que ces premières 36 heures, elles n'ont pas été avec beaucoup de repos. On n'est pas loin du bon paquet, c'est plus important.
Super intense, mode Figaro, si j'ose dire. Toujours le col de sèche. On n'a pas pu se déshabiller pour dormir. Donc voilà, on a des petits copains à côté. Donc ça, c'est encore mieux.
De plus, ils ont écopé d'une pénalité de 30 minutes. Mais je laisse Benjamin vous expliquer.
Et on va avoir une pénalité à résoudre de 30 minutes aussi parce qu'on a le bib qui s'est arraché là, ses attaches sont arrachées et on a le pont du bib qui a cassé.
C'est en milieu de matinée, après être sortis du front, qu'ils effectuent l'empannage qui les place sur la route du golfe de Gascogne.
Bah, au début c'était un peu chaud, la mer était chaotique après le front avec un angle assez ouvert donc ça pouvait aller vite mais en fait on s'est un peu raisonné, on a été doucement parce que c'était un peu chaud. Et après, petit à petit, la mer se range et bon, c'est pas encore la mer parfaite, mais on a pu accélérer un peu. On essaye de suivre un peu le rythme des gens qui sont autour de nous, sans pour autant trop bourriner. Quoi. On essaye juste de rester dans le match pour l'instant. On est en route toujours vers le sud.
En ce troisième jour de course, notre duo se trouve en 7e position dans le second paquet.
Face au large du Cap Finistère. Et ben écoute, le moral est bon. Là c'est cool, ces dernières heures on a pu se relayer et tu vois Coco est à la sieste là et on a enfin pu faire des siestes et on se repose un peu. On va avoir un peu de bricolage mais le moral des troupes est bon. Eh bien, vendredi matin, à bord de Guyon Environnement Water Family. Ça y est, on vient de retoucher un petit peu de vent. C'était plutôt faiblard cette nuit. Et là, on est reparti avec 13-14 nœuds de vent. Le bateau glisse bien. Il fait un petit peu plus chaud. C'est cool. C'est capable de passer des quarts sans le top, sur le haut tiré. Donc ça, c'est sympa. On a bien bricolé cette nuit. On essaye petit à petit de cocher des cases dans la job list. Benjamin a bien bricolé cette nuit là dans des endroits du bateau compliqués. On a malheureusement la pénalité assis à gérer de 30 minutes.
On est toujours un peu dans la recherche. On regarde un peu ce qui peut se faire. C'est vrai qu'il y a une belle route nord avec une belle option stratégique qui se dessine, mais on préférait que ça évolue plutôt vers une route sud parce que c'est vrai que la route nord elle est costaud pour les bateaux.
Le long des côtes du Portugal les attend le second grand défi de cette Transat Jacques Vabre, la dorsale anticyclonique. Notre équipage va devoir faire un choix stratégique déterminant pour la suite de cette course. Traverser la dorsale vers le sud pour profiter des alizés, qui sont des vents constants qui viennent du Sahara et traversent l'Atlantique jusqu'en Amérique du Sud, ou prendre au nord une route semée d'embûches, de fronts, de tempêtes et avec de la mer. Cette route, bien plus incertaine et synonyme de casse potentielle.
Et ben Benjamin va vous expliquer le choix de route.
Ah l'enfoiré.
Pour l'instant, il n'y a pas de choix de route, on peut dire ça. On a encore un peu de temps pour décider. Du coup, on va choisir maintenant d'y aller, mais on perd pas trop si on prend un peu de temps encore pour décider. Et voilà, on est dans le bon paquet avec un bon groupe. Et le monde a l'air de faire route vers le sud. Clairement, aujourd'hui, ça passe pas dans nos fichiers, mais c'est vrai que la route nord est aussi un peu complexe. Donc voilà, écoute, pour l'instant, tant qu'on n'a pas le bateau à 100%, de toute façon, on continue vers le sud. Et encore jusqu'à demain pour décider notre choix, donc affaire à suivre.
Leur choix est fait, notre duo s'engage dans la voie du sud et traverse la dorsale anticyclonique de part en part. Mais au fait, vous savez ce que c'est un anticyclone, vous ? Un anticyclone, c'est une zone de haute pression atmosphérique caractérisée par le mouvement descendant de masses d'air froid qui augmentent la pression au sol et empêchent la formation des nuages. Ces zones sont également synonymes d'absence de vent et sont très présentes dans l'Atlantique. La flotte d'Imoca s'est retrouvée confrontée à la dorsale anticyclonique. C'est une sorte de bras de l'anticyclone. Les dorsales anticycloniques peuvent s'étendre sur de vastes étendues géographiques et couvrir plusieurs centaines de kilomètres. Naviguer dans ces phénomènes météorologiques, ce n'est pas de tout repos, car il arrive qu'on observe un effet dit d'accordéon. La flotte rentre petit à petit dans la dorsale et se retrouve quasiment à l'arrêt. Les bateaux se retrouvent alors en flotte compacte et on peut avoir l'impression que les écarts entre eux diminuent. Mais c'est là que l'effet d'accordéon prend tout son sens, car ceux qui sont rentrés les premiers en sortent aussi les premiers. C'est ce qui est arrivé à notre duo qui a pris du retard sur ses concurrents en restant coincé dans la dorsale. Leurs concurrents ont réussi à attraper de petits couloirs de vent pour avancer et ressortir de la dorsale anticyclonique.
On a passé 24 heures difficiles hier. On a perdu notre sang-froid à plusieurs reprises. On a vraiment eu du mal à soit trouver la vitesse du bateau dans le petit temps, trouver la bonne voile à utiliser, ou alors trouver le petit couloir de vent qui va bien. On était tout le temps dans des endroits un peu mous et c'est vrai qu'on s'est bien fait déposer par notre paquet. Alors on était un peu dégoûtés. On a bien avancé sur nos ateliers bricolage, donc déjà c'est quand même ça un bon point.
En ce qui concerne les problèmes, des voiles forcément un peu déchirées, mais on a réussi à réparer. On a eu des problèmes de foil aussi, de sortie de foil, mais ben j'ai après le MacGyver, elle a réparé ça. Est-ce qu'on a eu le lazy jack aussi qui a pété, un peu des fuites un peu partout. Donc il faut faire attention au bateau, mais bon, ça donne bien envie d'attaquer parce que les copains ils tiennent des moyennes de folie, donc on a envie de faire comme eux. Mais il paraît qu'en Imoca, ça fait partie du jeu. Un jour un problème technique, je crois. Il me semble que Michel disait ça pour le Vendée Globe, donc.
Et puis aussi résoudre notre pénalité malgré tout. Et voilà, maintenant en plus le paquet de vent s'en va avec le vent, c'est toujours un peu plus rapide que nous. Mais voilà, écoute, là on a retouché du vent aussi, donc maintenant il va falloir aller chercher le prochain coup à jouer, notamment le passage des Canaries. Et puis voilà, sinon il y a quand même du monde autour, ça a bagarré, donc ça va être pas mal. Voilà, et là on est en train d'étudier justement le passage des Canaries à venir.
Après avoir passé les îles Canaries, nos deux skippers font face à un autre grand choix stratégique. Continuer plus au sud, pour profiter des alizés, ou remonter vers le nord, au risque de s'approcher trop près des zones sans vent qui bordent l'anticyclone.
Le menu à venir, niveau météo, ça va être... soit on remonte vers le nord, on va aller rechercher l'île de Mouette en haut de l'anticyclone. Hein. Soit on reste juste à son sud, soit on descend plus bas dans les alizés profonds. Donc écoute, pour l'instant, on a du vent, et pas exactement le même vent que sur les fichiers. Donc on se dit qu'on improvise un peu suivant aussi ce qu'on a en temps réel. Disons qu'hier, on était plutôt partant pour aller dans le nord, et aujourd'hui, finalement... on se dit qu'on a du vent, que la route sud elle peut être pas mal. Et après, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'aller se rapprocher des zones sans vent. Donc si on peut éviter, ça peut être pas plus mal aussi. Écoute, affaire à suivre.
Binge et Coco entament alors quelques journées difficiles. Ils ont du mal à trouver le bon réglage de leur nouvelle voile, le Grand Jenac. Et perdent un petit peu de distance sur leurs concurrents.
Écoute, les troupes vont bien au large du Sahara. Pas mal de... beaucoup plus de vent que prévu, donc écoute, pour l'instant ça glisse bien, c'est chouette. On a du mal à trouver la vitesse du bateau, on a du mal à trouver la bonne config de voile. On utilise une voile qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, qui est un peu nouvelle pour moi aussi. C'est vrai qu'on a un peu de mal à utiliser pour l'instant. En tout cas, ça glisse bien et on essaye quand même d'avoir une vitesse correcte par rapport à nos petits copains.
Devant, ils sont insuivables, c'est impressionnant les vitesses des premiers bateaux là, mais écoute, nous on a notre petit groupe, on s'amuse bien et voilà, ça avance bien. Après l'anticyclone des Açores, ils sont partis avec du vent que nous on n'avait pas, donc là l'écart a été assez important, mais de ce que je vois, les vitesses qu'ils ont devant, nous on est loin de ces vitesses là depuis le début et on a du mal à les atteindre quoi. Ouais, on est content sur pas mal de points, les petites améliorations qu'on a fait sur le bateau. Bon, ouais, c'est sûr que ça change, ça en fait pas un bateau neuf, mais mine de rien, on sent quand même la différence. Là, c'est sûr qu'on pêche un peu parce qu'on a une voile qui correspond pas vraiment aux conditions qu'on a et malheureusement on peut pas utiliser l'autre voile donc voilà, on fait avec ce qu'on a et écoute, ça, on s'accroche. Bah là, c'est une carte postale alizéenne, façon volant, des nuages, petit fond de ciel bleu mais on le voit pas vraiment. Là, il y a 25-30 nœuds de vent et voilà.
Une bataille acharnée s'engage alors avec les équipes de Prismian Group et Fortinet, qui naviguent au contact de Guyan Environnement Water Family.
On est à la bataille avec Fortinet surtout, et puis Prisman qui est un peu plus loin derrière. Et voilà, donc c'est les copains figaristes, on va dire que j'ai l'habitude de naviguer contre eux. Donc c'est rigolo, mais c'est bien, ça fait un objectif d'essayer de battre ces deux bateaux-là et puis aussi les bateaux de derrière qui vont sûrement revenir et puis les bateaux du nord, on verra ce que ça va donner. Après les bateaux de devant, c'est compliqué. Hein. Ils ont déjà bien pris de l'avance et ils arrivent à tenir des moyennes très très élevées donc c'est difficile d'imaginer revenir sur eux.
Voilà 10 jours que Benjamin et Corentin ont commencé la Transat Jacques Vabre. Ils se trouvent alors au nord-ouest de l'archipel du Cap Vert. Ils n'attendent qu'une seule chose, que le vent faiblisse. Oui, vous avez bien entendu, faiblisse. Étrange! Pourtant, si le vent faiblissait, il pourrait changer de voile et passer sous grand spi, une allure plus favorable au bateau.
Ça glisse et ça descend vers la Martinique. On a croisé cette nuit juste derrière Prismian. Et puis le vent a commencé à mollir, donc ça nous a permis de faire notre petit changement de voile et de sortir notre bumper, comme dit Coco, qui va nous permettre de glisser un peu plus, une voile qu'on connaît. Et donc du coup, là, c'est quand même plus facile niveau vitesse pour nous. Donc écoute, ça nous va bien, c'est rare qu'on dise ça, mais ça nous va bien que le vent ait molli un peu et qu'on puisse utiliser cette voile-là. On a récupéré des vitesses qui sont un peu plus stables et un peu plus correctes. Et un angle aussi qui est un peu meilleur. Donc c'est déjà plutôt une bonne chose. Et donc ouais, toujours à la bagarre avec Prismian. On a côté Fortinet qui optionne vers le sud. Et puis après, on a tous nos ressortissants du nord qu'on devrait recroiser dans deux jours. On ne sait pas encore où est-ce qu'ils vont croiser, mais aujourd'hui les routages disent devant, mais on va voir ce qui peut se passer. Et puis RAS quoi, on a fini presque tout le petit bricolage et ça glisse.
Lors du passage de l'anticyclone, la flotte s'est scindée en deux. Une partie a pris l'option du nord, tandis qu'une autre, dont font partie Benjamin et Corentin, a pris l'option du sud. Alors que les deux évoluent parallèlement dans l'Atlantique, le suspense grandit. Quelle était la meilleure option? À quel moment leurs routes vont-elles se recroiser? Qui arrivera en premier en Martinique?
Et les copains qui sont partis à l'ouest, bah écoute, sur le papier, ça semblait être une option un peu plus rapide que la nôtre. C'est une route qui est quand même semée d'embûches, notamment avec des prévisions météo qui sont... Des frontologies qui sont pas forcément faciles à anticiper. Donc voilà, écoute, nous on a plutôt décidé de,
rester conservateur, rester avec le paquet, même si c'est vrai que cette option pouvait sembler plutôt alléchante.
On n'est jamais sûr de rien. C'est sûr que les routages, quand le choix s'est fait, les routages du Nord les donnaient gagnants de 48 heures. Donc c'était un choix difficile à faire. Mais bon, nous, on avait déjà cassé pas mal de matériel. Et on se voyait mal retourner voilà, faire du prêt, prendre plusieurs fronts, alors qu'en un front, on avait déjà cassé plein de choses. Voilà, on s'est dit que c'était plus sage la route et que ça allait peut-être s'ouvrir. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer dans les prochains jours.
Une chose est sûre, nos deux skippers s'entendent bien.
Ouais, carrément, avec Coco, ça passe super bien. On a un bon rythme, de racontage de conneries. Mais écoute, non, ça va, on est bien focus.
Et bah écoute, ça se passe super bien. On a trouvé nos quarts, on fait des petits quarts d'une heure et demie, on se repose bien. Et voilà, chacun fait sa part du boulot. Benjamin est bien focus sur la météo, il regarde bien ça en détail, donc ça lui prend pas mal de temps. Donc voilà. Mais non, bah voilà, pour finir, moi c'est top, c'est une super expérience. Je prends du plaisir, j'apprends plein de choses. On a empanné hier pour aller chercher le dernier point d'empannage dans le nord-ouest. Et voilà, on a toujours Prisman qui est juste derrière et Fortinet un peu plus au sud. Donc voilà, malheureusement, comme tu l'as souligné, la voile qui nous a permis de bien repartir hier est un peu moins efficace aujourd'hui. Donc voilà, là on est en train de rechercher quelle stratégie on va adopter, quelle voile on va mettre pour essayer de rester devant lui. Voilà, c'est un peu con parce qu'on avait fait du bon boulot. Voilà, sinon Benjamin est en train de regarder les nouveaux fichiers de vent, la météo, tout ça, il s'occupe de ça. 24-48 heures, écoute, sur les routages ce matin, ça m'est arrivé dans 3 jours et quelques, entre 3 et 4 jours. Et pour nous, c'est aller chercher un point d'empannage de tribord à bâbord pour redescendre en route directe sur la Martinique. Le soleil commence à bien taper là ce matin, ouais, ça cogne bien et la mer s'est un peu aplatie, donc c'est sympa, ça glisse. Il faut juste trouver le moyen d'aller un petit peu plus vite. Parce que l'italien, il continue à nous emmerder, si j'ose dire.
J+12, samedi 18 novembre. Alors que nos deux skippers bataillent toujours avec Prismian Group, la mer et l'air se réchauffent. Il fait humide et ils rencontrent leur première sargasse, signe qu'ils se rapprochent des petites Antilles. Les sargasses sont des algues invasives qui créent de gros bancs à la surface de la mer, pouvant ralentir le bateau lorsque les foils, la quille et la coque du bateau s'y empêtrent. Nos skippers doivent donc slalomer entre les bancs de sargasses afin d'éviter de ralentir.
En avant-première à bord de Guy Environnement, la première sargasse. Et oui, ça commence à 800 milles des Antilles. On commence à avoir les sargasses sur l'eau. Ça va être un autre problème à gérer.
Jour numéro 12, samedi 18 novembre. Nuit studieuse à la bataille avec notre ami Prisman. La bataille sans les armes, dit Benjamin. Malheureusement, ils vont un petit peu plus vite que nous, dès que le vent rentre un peu. Et du coup, on doit composer avec des changements de voile pour essayer de pallier à ça. Donc voilà, on a fait toute la nuit à 4500, c'était hyper proche. Maintenant, on a décidé d'empanner en premier pour rejoindre la Martinique. Voilà, maintenant on a un long bord bâbord à faire vers les Antilles. On est à 890 000 du but sur le pointage ce matin. Au niveau des adversaires, on a Prisman qui est donc à notre droite, donc un peu plus dans l'ouest. Il va pas tarder à déclencher son empannage, je pense. Fortinet qui est dans le sud de l'autre côté, pour l'instant c'est plutôt positif pour nous, mais voilà, la lisée est hyper instable. Les fichiers météo sont entre guillemets à côté de la plaque, donc c'est à nous de composer avec ce qu'on a en force et en direct. On a les petits copains du nord qui sont plus que pas mal annoncés devant nous sur les routages, mais voilà, comme je disais, la lisée n'est pas très stable et les fichiers sont plutôt joueurs, on va dire. Donc on attend de voir comment ça évolue. Mais voilà, nous, on a un bel angle pour descendre pour l'instant.
Alors qu'ils ne sont plus qu'à 2 jours de l'arrivée, et toujours dans une bataille acharnée avec Prismian Group, le Grand Spi se déchire. Coup dur pour notre duo, qui hisse immédiatement le Grand Jenac pour continuer d'avancer, mais ralentit assez pour que leurs concurrents les devancent.
On est à 453 000 de Lille, donc voilà, ça commence à se réduire considérablement, on n'a jamais été aussi proche.
Écoute, bah, tout va bien à bord. On fait avec les aléas de la nuit. Malheureusement, on a cassé notre Grand Spi cette nuit. Donc c'est pour ça que Prismian est repassé devant au classement. Mais voilà, on conserve un petit décalage latéral par-dessous qui peut peut-être être bénéfique pour la suite. Donc voilà, on a cassé le Spi. On a renvoyé le match 0 cette nuit. On a fait une belle manœuvre. On n'a pas trop perdu, mais bon, quand même, un petit peu. Et par contre, le Magiro, il est troué aussi, donc on espère qu'il va tenir jusqu'au bout. Voilà, vivement qu'on arrive, parce qu'on a pas mal de matos cassés. Donc,
il fait grand beau, il y a 18-20 nœuds de vent, donc c'est cool, ça glisse pour l'instant en route directe vers la Martinique.
Au niveau des sargasses, on a commencé à en croiser hier, là il y en a encore, j'en ai encore vu aujourd'hui, mais ça va,
c'est pas pire, je dois t'avouer que sur les transats en avril, il y en a beaucoup plus, donc je sais pas si la période fait y est pour quelque chose, mais prochaines étapes pour nous, bah, essayer d'aller le plus vite possible avec notre voile, sans la déchirer, elle a un beau trou dedans, donc il faut la manier avec parcimonie. On va essayer aussi de réparer le spi. On a de quoi faire du sika, on va coudre un peu, du scotch pour éventuellement le remettre juste à l'arrivée si le vent est très faible. Ça pourra bien nous aider. Donc on a cette mission là cet après-midi, cette nuit. Et puis voilà, au niveau des ETA, c'est 16h TU. Sur les derniers routages. Donc alors, pour traduire, ça fait 17h heure française et ça fait midi heure en Martinique. Le groupe du Nord, normalement, on devrait moins être inquiété parce que c'est vrai qu'on va assez vite et qu'il commence à y avoir de la distance entre eux et nous. Donc voilà, on a peut-être une chance de regagner les Italiens, Prismian. On est toujours dans le match pour essayer d'aller lui ravir cette place.
Ça y est, ils arrivent. Guyot Environnement Water Family passe entre le Rocher du Diamant et les côtes verdoyantes de la Martinique. Passage mythique de l'arrivée dans les Antilles. L'équipe est venue les rejoindre en Zodiac. Tout le monde les acclame. Ils ont réussi leur pari et regagné cette 10e place sur l'équipage italien Prismian. Juste avant de passer la ligne d'arrivée, notre duo profite d'un peu de vent pour faire voler le bateau. Quelle bande de crâneurs! Au cours des 2 derniers jours, Binge et Coco ont serré les fesses, mais ont continué de se battre pour ce top 10. Ils ne cachent pas leur joie.
Donc nous, on a eu beaucoup de galères et on n'a pas lâché. J'avais mon MacGyver à bord. Et à chaque fois qu'on cassait quelque chose, ils disaient non, c'est pas grave, t'inquiète, je vais le réparer. Donc voilà, on est content d'être là, en 10e position. Moi, je suis satisfait de finir devant mes deux petits copains figaristes. On s'est pas beaucoup lâché.
Ouais, je pense que sportivement, on a trouvé ce qu'on était venu chercher. C'est vrai qu'on était super bien positionné au passage d'Anticyclone des Açores, donc on était content déjà d'être bien dans le match. On avait bien régaté sur la sortie de manche et on se faisait vraiment plaisir. Donc ça, c'était quand même plutôt chouette. Et on est resté collé un petit moment entre bricoles, etc. Dans l'Anticyclone des Açores, on n'a pas trouvé la voie pour sortir, pour partir. On avait une voile qu'on découvrait et qu'on pensait être l'arme fatale et en fait on a eu du mal à la faire fonctionner, donc c'est vrai qu'on s'est vite fait largué par le groupe de devant qui était assez impressionnant en vitesse, et après du coup on s'est raccroché à tous nos petits copains derrière qui sont vite revenus sur nous, et là on s'est dit bah cette voile elle fonctionne pas, etc. On s'est beaucoup remis en question dans notre manière de naviguer entre le début de la course et la fin de la course, et je suis content parce que c'est vrai qu'à la fin avec toutes ces petites remises en question, bah on a reprogressé ensemble et on est arrivé à un niveau qui nous permettait de revenir dans le top 10, c'était bien.
Et tous deux évoquent le plaisir qu'ils ont eu à naviguer ensemble. Une chose est sûre, Binge et Coco, c'est un duo qui marche.
C'est génial, j'ai découvert Benjamin aussi, un grand marin qui connaît super bien son bateau, qui connaît super bien les Imoca.
Non, c'est que, pour moi, c'est que du positif.
Merci à tous d'avoir écouté ce récit de la Transat Jacques Vabre de Benjamin et Corentin. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de La Voix Rousse. Et je vous retrouverai dans le prochain épisode, dans lequel vous aurez une petite surprise. À bientôt.
Benjamin Dutre, palapalala. Benjamin Dutre, palapalala. Sur Guyot Environnement, il va porter aux quatre vents les bonnes idées de Flaggy Water Family.